Au petit matin du 16 juin 1940, alors qu'il y a à peine de fêter ses 20 ans, René Duval voit passer sous ses fenêtres les troupes allemandes. Il ne peut supporter notre défaite et l'invasion de notre pays. Dès cet instant, bien qu'il possède un bon métier qui vient de lui ouvrir les portes de la pâtisserie la plus renommée de Coutances, il décide de quitter la France et de rejoindre nos alliés anglais. Il ne reviendra chez lui qu'en 1945. La veille de ses 25 ans, il aura laissé malheureusement derrière lui quelques-uns de ses amis partis du Passou avec lui en juin 1940. Nous vous proposons d'écouter quelques extraits de ses mémoires.
J'avais 19 ans et 3 mois. C'était ce que l'on appelait la drôle de guerre. Nous-mêmes, les jeunes, profitions au mieux de la vie avec nos copines et petits amis. Promenade au bois des vignettes, pêche à la truite, vélo bien sûr, tout en attendant une mobilisation prochaine car j'allais avoir 20 ans. Puis ce fut l'offensive allemande dans l'est de la France et cette fois-ci, la vraie guerre. À Coutances, comme ailleurs, l'ambiance n'était pas bonne. Nous avions les nouvelles par la radio et la presse. L'armée allemande avait occupé Paris, l'armée alliée était en débandade. Les réfugiés venaient de la zone de combat, affluaient dans la région. Ce lundi 16 juin, il doit être 6 heures. Je me lève donc et regarde par la fenêtre. Oui, effectivement, ce sont les Allemands. Je m'habille et descends, complètement bouleversé et écœuré. Je regarde passer les premiers véhicules d'avant-garde. Je suis dans la porte ouverte, impuissant et révolté par toutes les mensonges de nos hommes politiques et devant la décadence complète de l'armée française. Un véhicule allemand monté par 2 ou 3 soldats s'arrête. Je vois descendre un Allemand qui ouvre la barrière et entre dans la cour. Nous sommes face à face, à peu près du même âge. Celui-ci muni d'une casserole vraisemblablement pour demander de l'eau. M'adresse des paroles que je ne comprends pas. Un bref instant, nous nous regardons les yeux dans les yeux. Devant mon attitude, il tente d'entrer. Je m'y oppose. Bref bousculade, ma mère est affolée. Il est vrai que mon inconscience du moment aurait pu avoir des conséquences tragiques. Je prends donc sa casserole et me dirige vers le puits qui se trouve derrière la maison. Mais je tarde à revenir. Mon ustensile à la main, je réfléchis à ce que je dois faire. Ma mère, ne me voyant pas revenir, vient me chercher. Et sauve certainement la situation. L'Allemand s'en va et remonte dans son véhicule qui démarre. Ma mère me sermonne et me dit « T'aurais pu nous faire tuer », ce qui était sans doute vrai. Dès ce moment, ma décision est prise. Il faut que je rejoigne les Anglais qui, eux, j'en ai la conviction, poursuivront le combat.
Le 17 juin 1940, j'avais entendu à la radio l'allocution prononcée par Pétain, qui annonçait aux Français sa demande d'armistice. J'étais totalement outré et peiné par tant de défaitisme, alors que notre flotte et l'empire colonial étaient intacts. J'avais honte de cette attitude envers nos alliés anglais. Il me fallait trouver le moyen de gagner l'Angleterre. Le soir même, je me dirige vers la côte, en direction de Coutainville. Arrivé à Tourville-sur-Sienne, je m'arrête et j'entre dans le café. Je m'approche du patron, que je ne connais pas, et à brûle-pourpoint, lui pose la question. Connaîtriez-vous un pêcheur susceptible de me passer à Jersey ? Question dangereuse à l'époque. Il me regarde et réfléchit, et à son tour, me pose la question. Pourquoi veux-tu passer à Jersey ? Je lui fais part de mes raisons et de ma décision de me joindre aux Anglais. Il me répond enfin. Pour le moment, je ne connais personne. Reviens demain matin, à une heure que nous fixons. Je vais voir, me dit-il. Le lendemain, je suis au rendez-vous. J'entre dans le café. À 7 heures, il n'y a personne dans la salle, sauf un consommateur assis dans un coin. Le patron me fait signe en me désignant l'homme. « Bonjour !» Je m'assois, ainsi intimidé par le personnage, la soixantaine, le regard perçant, le type même du paysan normand de la côte, pêcheur côtier, ramasseur de varech, plus ou moins trafiquant avec les îles Jersey. La conversation s'engage, il a évidemment été mis au courant par M. Kennel.
« C'est toi qui veux passer à Jersey ?» Je lui réponds « Oui ». Et lui fait part de mes intentions. « Ça pourrait se faire, me dit-il. Mais il faudrait trouver de l'essence, et puis, pas tout de suite, la mer est trop grosse. T'es tout seul ?»« Oui, pour le moment, mais on pourrait être plusieurs. Pas plus de 4 ou 5, me répond-il. Je n'ai qu'un Doris. Ça coûtera combien ? Apporte de l'essence, on verra après. Puis nous nous quittons. » Je repars chez mon patron, j'ai trouvé la filière. Le hasard fait souvent bien les choses. Il est convenu que je le reverrai chaque matin, en attendant que la mer se calme et nous permette de partir. Il faut donc se tenir prêt. Rentré à Coutances, je fais part de mon projet à 4 bons camarades dont je connais les sentiments. Pierre Lemasson, Lucien Mousseau, Jean Renoux, Jacques Letellier. Tous les 4 sont tout de suite d'accord. Chaque jour, je rencontre notre pêcheur qui s'appelle Léopold Legraveran. L'essence est acheminée par petites quantités, toujours pour ne pas donner l'éveil. Et j'ai fait part à notre passeur que nous serions 5. Les bruits les plus divers circulent, la collaboration s'installe.
La guerre est finie, pensent nos braves Français. Tant pis pour l'honneur et nos alliés. Les prisonniers vont rentrer et la vie va reprendre son cours. En réalité, les Français en très grande majorité baissent les bras et remettent leur destin à leur idole du moment, Pétain. Notre idéal à nous et tout autre et l'avenir nous donnera raison. Certains ont entendu, paraît-il à la radio, un général français qui s'appelle De Gaulle, on ne sait pas très bien, lancer un appel de Londres demandant aux Français de se joindre à lui pour continuer la lutte aux côtés des Anglais. Personnellement, je ne l'ai pas entendu. En ce qui me concerne, j'attends et me tiens prêt, ayant bien réfléchi, ma décision est irrévocable. Je sais quelles peuvent être les conséquences. Je vais m'exiler et pour combien de temps ? Laisser mes parents, ma mère, que j'aime beaucoup, mon jeune frère Guy, mon frère Joseph, mobilisé dont on ne sait rien, mes copains, ma petite amie du moment, et tirer un trait sur ma vie. Enfin, après une attente qui a duré 10 jours, le 27 juin 1940, je rencontre mon pêcheur comme chaque jour qui me dit « La mer est bonne, on part ce soir. »
À l'heure et à l'endroit convenu, chacun était venu individuellement pour ne pas donner l'éveil. Nous nous retrouvons. Il y a là Pierre Lemasson, 19 ans. Lucien Mousseau, même âge. Jacques Letellier, 18 ans. Jean Renoux, le plus jeune, il n'a pas 18 ans. Et moi, 20 ans. Un sixième que nous ne connaissons pas arrive avec Léopold Le Graveran. Il s'appelle André Jérusalemi. C'est un Parisien réfugié chez un cultivateur ami de sa famille. Donc, ce 27 juin 1940, nous sommes là. 6 jeunes volontaires fermement décidés à continuer la lutte, qui écoutons les dernières consignes de notre passeur. Nous sommes là, 7 hommes entassés dans notre Doris, sans aucun équipement de secours, sans vêtements appropriés, sans eau et sans vivres. Il doit être 21h30. Il fait grande nuit, pas un bruit, pas un mot, on entend seulement le bruit des avirons. Nous naviguons ainsi peut-être pendant 30 minutes, puis le père Le Graveran, jugeant qu'il est assez éloigné de la côte, rentre les avirons et met le moteur en marche. C'est un moteur de voiture 6 chevaux Renault qu'il a bricolé et adapté sur son Doris. Cela n'est pas bien rapide, mais ça marche. Pas pour longtemps, hélas. Nous nous retrouvons aux environs du phare du Sénéquet, soit à 3 milles de la côte lorsqu'il s'arrête et refuse de repartir. Alors nous continuons à l'aviron, à tour de rôle. Il y a 6 ou 7 heures que nous naviguons lorsque le jour se lève et que nous apercevons enfin l'île de Jersey. Nous longeons au plus près, lorsqu'enfin nous abordons au port. Il y a là un comité d'accueil, la police bien sûr, à laquelle nous devons expliquer notre situation et notre espoir de gagner Londres, mais aussi des civils qui nous accueillent d'une façon magnifique. Tout se passe très bien, mais il faut maintenant trouver le moyen de quitter l'île pour l'Angleterre. Nous obtenons un embarquement sur un petit cargo qui sera, je crois, le dernier à quitter l'île, Isle of Sark. Aujourd'hui, des avions allemands ont survolé l'île, bombardé et mitraillé à basse altitude. Il n'y a aucune défense. En apprenant que l'île est occupée 2 jours après notre passage, nous pensons avoir eu beaucoup de chance. Nous sommes donc à bord de l'Isle of Sark. Le bateau est rempli de civils de tout âge qui quittent Jersey pour l'Angleterre et c'est là, dans cette foule, que je reconnais 4 jeunes Saint-Lois qui, eux, sont partis de Granville et qui, comme nous, veulent continuer la lutte. Il y a aussi quelques autres jeunes Granvillais que je ne connais pas.
Le bateau navigue seul et nous sommes à la merci du moindre avion, du moindre sous-marin. Quelques temps plus tard, 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus, nous faisons escale à Guernesey. Il est prévu une escale dont la durée nous est précisée avec possibilité de descendre à terre. Soudain, des avions à croix gammés surgissent à très basse altitude, bombardent le bateau et les quais. Nous voyons distinctement la fumée des mitrailleuses et les bombes qui tombent. Les balles se fichent dans le pont en bois, c'est l'affolement général. Il y aura des tués et des blessés, tant sur le bateau que sur le quai.
Nous, les 6 camarades, nous nous en sortons sans dommage. Il n'en est pas de même pour un jeune de Granville qui y laissera sa vie, ainsi que beaucoup d'autres. À la tombée de la nuit, notre bateau appareille et quitte le port, direction l'Angleterre. Nous naviguons toute la nuit, tout feu éteint. Le bateau fait un bruit infernal, sans doute ses machines poussées à fond. Le lendemain matin, nous sommes donc le 29 juin, nous apercevons les côtes anglaises. Le temps est clair et à mesure que nous nous rapprochons, nous distinguons un grand nombre de bateaux mouillés, en rade ou dans le port, bateaux de commerce, mais surtout bateaux de guerre. Nous sommes à Southampton. Lorsque nous quitterons enfin le bord, ce sera pour être pris en charge par la police, qui nous dirigera jusqu'à la gare où nous montons immédiatement dans les wagons, gardés, baïonnettes au canon, par des soldats anglais. Quelques temps plus tard, nous sommes à Londres, où, toujours escortés, nous descendons du train pour monter dans un car qui nous attend. Notre car s'arrête enfin et l'on nous dirige à pied vers un grand bâtiment où sont déjà regroupés des Français évadés de France. Comme nous, ce centre s'appelle Hempress Hall. Nous y serons interrogés par des officiers du renseignement anglais qui se méfient à juste raison de l'infiltration possible d'agents ennemis. Après ces diverses formalités, l'on nous annonça la visite du général de Gaulle qui s'adressa à nous. Le 1er juillet 1940, nous signons notre engagement aux forces françaises libres pour la durée de la guerre.
Au camp d'Aldershot, René Duval fera ses classes dans la 101e compagnie Otto. Fin août 1940, en compagnie de 2500 volontaires tout au plus, il embarque depuis Liverpool sur le cargo Westernland, cargo sur lequel embarque également le général de Gaulle. Son parcours le mènera à Dakar le 23 septembre pour une tentative de débarquement. Il avait pour objectif de rallier la colonie à la France libre, mais ce fut un échec. Ensuite, direction Freetown en Sierra Leone, colonie anglaise et base importante pour les convois allant ou venant d'Amérique, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Puis, ce sera une escale à Victoria en Côte d'Or et une remontée du fleuve Wouri jusqu'à Douala en Cameroun. Cela fait 40 jours que René Duval et ses compagnons de la France libre sont en mer depuis qu'ils ont quitté l'Angleterre. René Duval et la 101e auto resteront à Douala, au camp de Bassa, jusqu'au jour de Noël 1940. À Freetown, ils sont transbordés avec armes et bagages sur un cargo, le Neuralia. À son bord est embarquée la majorité des effectifs français de la France libre, y compris la Légion. 8 jours plus tard, ils entrent dans le port de Durban en Afrique du Sud. Puis, le 14 février 1941, René Duval débarque à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Aussitôt débarqués, ils sont transportés à Souakim et ils se dirigent vers le sud à travers le désert soudanais, destination l'Érythrée et l'Abyssinie. Son unité française libre a été appelée la 13e demi-brigade d'Orient. Elle est composée en majorité de légionnaires. Elle comprend aussi un bataillon de marche d'Africains, une compagnie de génie et sa 101e compagnie auto. L'avance des FFL aboutit à la prise de Keren, point fort solidement tenu par les Italiens, et sa compagnie participe à la prise d'Asmara et de Massawa, port de la mer Rouge. Cette campagne d'Érythrée a été très dure physiquement, elle a duré 3 mois. La 13e demi-brigade a bien fait ressortir la valeur de tous ses volontaires, français libres, des jeunes volontaires évadés de France, dont les âges se situaient entre 18 et 20 ans, encadrés par quelques anciens.